Technologie, science,
algorithme, simulation,
informatique.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 99e épisode du podcast Interstice. Une fois n'est pas coutume, nous mettons un pied dans l'actualité pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, ChatGPT. Plus précisément, nous aborderons la question de l'éthique dans les agents conversationnels, comme ChatGPT. Pour en discuter, nous recevons Karen Faure, maîtresse de conférences en informatique à Sorbonne Université et chercheuse au LORIA, le laboratoire lorrain de recherche en informatique. Karen Faure, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre domaine de spécialité est le traitement automatique des langues, le TAL, et en particulier, vous travaillez sur la création de ressources langagières, donc les lexiques, corpus, etc., par crowdsourcing, donc par le jeu. Vous vous intéressez depuis une dizaine d'années maintenant aux questions éthiques dans votre domaine de recherche, le TAL. Comment vous définiriez cette éthique dans le contexte de l'intelligence artificielle ?
Alors, définir l'éthique, ça peut être un cours entier. Hein. Donc, l'idée pour l'éthique dans l'IA en général et dans le traitement des langues en particulier, c'est de se donner des règles ou en tout cas de s'éduquer pour comprendre, pour imaginer quels sont les aspects positifs, négatifs de ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut limiter les dégâts ou les éviter et en tout cas d'en prendre conscience. Alors, cet effort de pédagogie, d'ouverture, de formation de la communauté. C'est vraiment au cœur de l'activité du comité d'éthique que je co-préside, le comité d'éthique d'ACL. Alors ACL, c'est l'association de la linguistique computationnelle, c'est l'association principale internationale du traitement automatique des langues. Donc ce comité d'éthique a été formé pour justement résoudre les problèmes, en tout cas les poser, et puis proposer des formations, proposer des bonnes pratiques, etc. C'est vraiment fondamental cette partie pédagogie au sens large, d'essayer d'ouvrir les yeux au sens, je dirais, à la fois spatial, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ça peut avoir des conséquences locales, mais aussi internationales, et puis temporelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des conséquences immédiates, puis il peut y avoir des conséquences à long terme, et il est important d'essayer d'imaginer quelles conséquences à long terme pourraient avoir nos recherches.
Les agents conversationnels, aussi appelés chatbots, sont donc des systèmes numériques capables d'interagir avec leurs utilisateurs et utilisatrices en langage naturel, à l'écrit comme à l'oral. Ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien, que ce soit à travers les objets, smartphones, voitures, ou dans nos modes de vie, les coachs virtuels, les formations à distance, etc. ChatGPT en est un exemple, mais il existe d'autres applications similaires capables de rédiger des textes en tout genre ou de discuter. D'un point de vue extérieur, on a un peu l'impression qu'un nouveau cap a été franchi au niveau de la recherche dans ce domaine avec ChatGPT. Mais est-ce réellement le cas ?
Alors oui, ChatGPT, c'est assez intéressant parce que c'est un épiphénomène. La première chose que je voulais dire à propos de ChatGPT, c'est qu'il est produit par OpenAI, qui est une entreprise qui est censée être à but non lucratif et qui a été créée à l'origine par un certain nombre d'investisseurs, dont Elon Musk. Et il y a un achat d'outils de ChatGPT par Microsoft qui lie aussi les deux entreprises. Et cet outil est sorti sans qu'il y ait aucun article qui soit publié avec l'outil. C'est-à-dire que l'outil est sorti directement sur le web. Donc aujourd'hui, ChatGPT, il est vraiment sorti comme un produit. En tout cas, c'est pas un produit de la recherche habituel, au sens où il n'y a pas ce processus qui a eu lieu de relecture. On a très peu d'informations, finalement. Alors, est-ce que c'est un nouveau cap ? À la fois oui, parce qu'on voit bien que la qualité de la forme est intéressante, à tel point qu'il y a plein de gens qui ont parlé de sauts importants. C'est assez bluffant sur certains points. Et effectivement, il y a plein d'applications qu'on peut imaginer qui seraient intéressantes à avoir, et c'est pas forcément celles qu'on met toujours en avant. Par exemple, moi, je pense à des applications comme la simplification de texte, pour les gens qui ont du mal à lire, les dyslexiques. Il y a plein d'applications qui pourraient être très utiles grâce à ChatGPT et qui, là, cette fois, auraient un niveau de qualité intéressant. Maintenant, finalement, ce que je fais beaucoup, c'est de dire, et si on ouvrait ? Donc là, on ouvre et on se dit, d'accord, il y a un saut qualitatif, mais dans quelle langue ? Parce qu'on parle souvent du traitement de la langue. Moi, j'insiste pour qu'on dise traitement des langues. Dans le monde, il y a 7000 langues à peu près. 7000. ChatGPT en traite un sous-ensemble qui est peu clair, parce que là encore, on n'a pas de publication. Sur une petite dizaine, on va dire, il a de très bons résultats, d'excellents résultats sur deux. L'anglais et le français, apparemment, sont les langues qui sont les mieux traitées par ChatGPT. Mais là encore, ça vient d'informations fragmentaires qu'on a pu obtenir, soit de la communication d'OpenAI, soit par des tests qui ont été menés. Donc, on est loin d'avoir passé le test de Turing et on est loin de l'avoir passé dans toutes les langues. Parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau de couverture qu'on pourrait imaginer. ChatGPT, il est présenté sous sa forme générateur de texte. Et il est incapable de faire que ça. ChatGPT fait partie d'une famille d'outils qu'on appelle des gros modèles de langue ou des transformers, parce que tous les gros modèles de langue jusqu'à présent sont des transformers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ce sont des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'ils ont une application de base qui est ici la génération de texte. Donc vous commencez à écrire et puis vous lui posez une question et il vous répond, vous commencez à écrire et il complète. C'est des modèles autorégressifs, c'est-à-dire qu'ils se complètent eux-mêmes. Mais derrière, en tant qu'entreprise du TAL, on pourrait accéder au moteur de ChatGPT en interne et faire d'autres choses avec. Et on rajoute une petite brique Lego sur le côté. En gros, on a ce cœur sur lequel on va rajouter quelque chose qui va nous permettre de faire différents types d'applications. Ça peut aller depuis l'analyse syntaxique. Est-ce que c'est le sujet de, quand je dis le chat mange la souris, le chat, c'est le sujet de manger, etc. Bon, tout ça, on pourrait lui faire faire ça. On pourrait lui faire faire des choses d'un peu plus haut niveau. Par exemple, de faire de l'analyse de est-ce que ce texte-là est plutôt positif, négatif, neutre. On pourrait lui faire faire toutes sortes de choses. Et le problème de ces outils couteau suisse, c'est que quand on veut les évaluer, il faut évaluer tout. Et en particulier, il y a des tas d'applications qui posent beaucoup de problèmes de biais qui peuvent avoir des conséquences graves sur les gens. Par exemple, si on part du principe que une femme serait moins justifiée comme chercheuse qu'un homme. Si on crée une application d'analyse automatique de CV pour le recrutement, et bien sûr, les femmes seraient moins recrutées que les hommes. Il y a des biais qui seraient aussi, évidemment, les biais racisés, les biais socio-économiques, vous imaginez tout ce qu'on peut trouver. Alors, ChatGPT, par rapport à GPT-3, donc qui était son prédécesseur, il a une couche supplémentaire, une couche de filtrage. Et cette couche de filtrage, elle fait que OpenAI réussit à masquer les problèmes de biais qu'il y a dans le modèle sous-jacent. On les corrige, on va dire, mais je ne suis pas sûr qu'il les corrige vraiment. Donc, c'est un peu masqué. Quand vous lui posez des questions du style « Est-ce que pour prendre un scientifique, il vaut mieux que ce soit un homme ou une femme ?» il va vous répondre à quelque chose du style « Il n'y a pas de raison de faire la distinction, etc. » C'est très neutre. Il y a un collègue américain qui a fait un test au début que ChatGPT a été publié. Au lieu de lui demander de générer du texte, il lui a demandé de coder en Python un bout de code qui permettrait de déterminer à partir d'un fichier où il y aurait des informations sur le genre de la personne, puis sur son origine ethnique, de dire si une personne serait un bon scientifique ou pas. Et ChatGPT lui a produit un bout de code qui dit que si c'est un homme blanc, c'est un bon scientifique, sinon, ce n'est pas un bon scientifique. Alors, c'était il y a quelques mois, et aujourd'hui, ChatGPT ne veut pas produire le code et dit que ça pose un problème de faire ce type de sélection. Donc, on voit bien qu'il y a eu une prise en compte des problèmes par OpenAI, mais la question, c'est jusqu'où ça va? Est-ce que c'est au cas par cas, ou est-ce qu'ils arrivent à résoudre le problème généralement? Et on voit bien que le fait qu'on arrive à lui faire coder ça en Python, alors qu'il y a un filtrage qui est assez efficace du point de vue du texte, ça a tendance à montrer que c'est juste du filtrage et que dessous, le modèle, il est toujours biaisé. Donc derrière, on arrivera toujours à tomber dans des excès comme ça. Évidemment, il y a des biais dessous, et là encore une fois, je ne peux dire que ça parce que je n'ai pas pu aller plus loin, mais j'ai l'impression que ces biais, ils sont restés et qu'il y a une surcouche de filtrage.
Quand je vous écoute, là, parce qu'on parle du biais justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent quelque part, puisque derrière ces outils, il y a des humains qui ont produit des données, qui vont être analysées et qui vont enrichir des corpus, mais finalement, est-ce qu'on peut se défaire de ces biais?
Alors, il y a deux choses ici. Un, l'idée que les modèles ne font que être le miroir des biais qui existeraient dans la société. Alors, d'une part, ils ne font pas que reproduire, ils amplifient. Il y a beaucoup d'expériences qui ont démontré qu'il y a une amplification des biais. Donc, s'il y a un certain pourcentage de biais dans un jeu de données, après entraînement, il va être supérieur à la sortie. Donc, c'est pas juste un miroir, c'est un effet de l'apprentissage. Un deuxième point qui est fondamental, c'est, vous me dites, c'est les biais de la société. Alors, quel est le jeu de données qui est utilisé pour entraîner ces modèles? En l'occurrence, en général, c'est le web. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le web est représentatif de la société? Si on regarde, ça veut dire quelle société? Est-ce que c'est la société occidentale qui a un fort accès au web, etc.? Qui s'exprime sur le web? C'est plutôt des gens qui ont un profil particulier. On sait, en tout cas, sur Wikipédia, par exemple, c'est que c'est beaucoup des hommes, on sait que c'est beaucoup des blancs. Donc, c'est pas n'importe qui va écrire sur Internet. Et donc, on peut pas dire que ce soit un reflet de la société. C'est peut-être un reflet de ceux qui s'expriment sur Internet. Donc, on a, d'une part, le fait que c'est amplifié, d'autre part, le fait que les données elles-mêmes, elles représentent un sous-ensemble de la société. Par ailleurs, derrière les algorithmes, il y a des gens qui prennent des décisions. Derrière les données qui sont choisies, en l'occurrence pour l'apprentissage, il y a des gens qui prennent la décision d'entraîner leur modèle avec un ensemble de données qui n'est pas maîtrisé. Ou au contraire, d'essayer de maîtriser cet ensemble de données. On a des collègues qui ont fait des efforts. Il y a un modèle qui s'appelle en particulier Bloom, qui a été développé grâce à une grande subvention de l'État français et à des efforts de très nombreux collègues. Ce modèle, une de ses particularités, c'est que le jeu de données qui a été utilisé pour le créer a été choisi de manière un peu plus contrôlée que les jeux de données qui sont en général utilisés pour entraîner les très gros modèles. Pour ChatGPT, vu la masse de données nécessaire, ils ont à peu près aspiré le web en nettoyant un petit peu, quoi. Mais en gros, il y a quand même beaucoup, beaucoup de données. Derrière, la question aussi, hein, c'est que toutes les données qui sont sur Internet ne sont pas libres d'accès. Elles sont soumises pour beaucoup à copyright. Bah, d'un point de vue, en tout cas, du droit français, je dirais que c'est pas si évident que ça qu'on puisse utiliser les données comme ça pour une entreprise. Voilà. Pour répondre à votre question, il faut jamais oublier que derrière, il y a des choix qui sont faits par des humains. Donc, il y a des gens qui sont responsables. Et du coup, il faut prendre un tout petit peu de temps quand on prend des décisions, se poser des questions de quelles vont être les conséquences à long terme. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont liés aux outils en général qu'on a aujourd'hui, en particulier aux grands modèles, hein, parce que ChatGPT, c'est un grand modèle de langue. Il y a quand même des questions qui sont liées à l'environnement. Produire un modèle comme ChatGPT, ça coûte énormément en termes d'empreinte carbone. Pour vous donner une idée, je crois que c'était GPT-3, hein, il y a des collègues qui ont mesuré une seule source d'empreinte carbone sur 4 à peu près, hein, et ils en étaient à l'entraînement de GPT-3, il aurait pris l'équivalent de 60 ans de consommation dans une vie d'homme. Juste l'entraînement, puis après il y a la consommation quand on va l'interroger, etc. Donc ChatGPT, a priori, c'est probablement plus, puisque il est plus gros. Donc voilà, on a ces problèmes-là, qui sont des problèmes qui aujourd'hui nous touchent de plein fouet. Et puis, on va retrouver le problème qui m'avait attiré vers l'éthique au début de ma carrière, on va retrouver des travailleurs. Il y a des micro-travailleurs qui ont travaillé pour OpenAI pour améliorer le filtrage. Donc, l'idée, c'est que des gens ont pu voir des contenus qui sont atroces, hein, y compris des contenus pédophiles, des contenus où il y a des meurtres, enfin tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible, hein. Ils ont regardé ça 8 heures par jour et ils ont été payés l'équivalent de 2 $ de l'heure apparemment. C'est des journalistes du Times qui ont découvert ça au Kenya par l'intermédiaire d'une entreprise qui s'appelle Sama. Donc OpenAI a payé Sama pour qu'il fasse de la notation sur des contenus, que les travailleurs disent « Ok, ce contenu-là est inacceptable, celui-là est acceptable. » Donc finalement, il y a des gens qui ont subi dans leur psyché en fait une attaque pour nous éviter de devoir faire face à ça. Et c'est problématique à différents niveaux, c'est-à-dire que déjà, ces gens sont très mal payés. C'est des entreprises quand même qui font du bénéfice. On pourrait estimer qu'ils auraient la possibilité de payer un peu mieux que ça. Par ailleurs, ils n'ont pas eu le soutien psychologique auquel ils auraient dû avoir droit. Donc on a d'autres problèmes. Penser éthique, c'est juste ouvrir, je dis souvent à mes étudiants, je vais ouvrir vos chakras, c'est vraiment au sens, on ouvre et on essaye de considérer plus largement quels peuvent être les problèmes, et pas seulement de mon point de vue en tant qu'utilisateur. Donc oui, il faut se poser des questions, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les aspects négatifs et pousser les aspects positifs? Quand on se pose des questions éthiques, on va arriver à se poser des questions scientifiques extrêmement intéressantes.
Les controverses autour de ChatGPT prennent de l'ampleur. En vous écoutant, on en prend d'autant plus conscience. De votre point de vue, quelle devrait être notre posture vis-à-vis de ces outils d'intelligence artificielle?
Ce qui est très important, c'est de se souvenir, moi je suis chercheuse et je dis toujours à mes collègues et à mes étudiants qu'on a deux casquettes. On a la casquette du chercheur ou de l'étudiant ou du travailleur, et puis on a la casquette de citoyen. Et on est aussi impacté par ces outils. Et donc, de mon point de vue, il faut impérativement demander des comptes. Il faut demander de la transparence. Il faut que on sache ce qu'il y a derrière et puis qu'on conteste les limites. Donc, c'est vraiment fondamental de développer l'évaluation de ces modèles, hein, des systèmes en général, et d'être capable d'en évaluer la qualité réelle. Pour l'instant, on est assez loin d'une qualité parfaite, hein, même si ça peut sembler être le cas. Si vous commencez à demander à ChatGPT de d'écrire quelque chose sur un sujet que vous connaissez bien, de manière un peu précise, vous allez vite vous rendre compte qu'il va raconter beaucoup de bêtises avec un ton, une manière de s'exprimer qui laissera entendre que tout cela est bien maîtrisé. Donc ça, c'est assez dangereux. Et puis, il faut être capable d'imaginer dans l'espace et dans le temps ce qui est en train de se passer. Un point qui me paraît fondamental aussi, c'est que les populations qui sont les plus impactées par la mise en ligne de ces modèles, leur utilisation au quotidien, sont celles à laquelle on demande le moins souvent leur avis sur l'utilisation des outils. Et je pense qu'il est fondamental que des choix sociétaux soient faits et qu'ils soient faits au niveau sociétal et pas par quelques personnes. Il faut arriver aujourd'hui à quand même tracer quelques lignes rouges entre des applications qui ne semblent pas avoir un impact fondamental et des applications qui vont avoir un impact très grave. Et puis, je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants. Après, encore une fois, il y a des tas d'applications très positives. Je pense à des choses du style de la description automatique d'images pour les gens malvoyants. Ça me paraît extrêmement utile. Les aider à s'orienter en ville, c'est aussi extrêmement utile. Bref, il y a toutes sortes d'applications qui sont aujourd'hui pas forcément d'ailleurs très développées. Il y a des choses plus importantes que de faire générer son devoir par ChatGPT.
Merci Karen Ford d'avoir accepté cet entretien.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.